Code Philosophie Première de Père Marie-Dominique Philippe, le 9 février l'an 2000 à Saint-Jean-d'Arc.
À titre de recherche, ça ne dira peut-être pas beaucoup pour vous, mais ceux qui ont déjà fait des études philosophiques peuvent compléter ça. Et quand je vous ai dit hier de rechercher tous les analogues de la substance, c'est par le fait même aussi la possibilité de découvrir et de classifier de façon critique les différents systèmes philosophiques. Et ce serait très intéressant cela, parce qu'on fait des classifications historiques. Merleau-Ponty l'a fait. Je prêtais ce gros livre, il n'est jamais revenu. Je faisais l'encyclopédie de la philosophie européenne. C'est intéressant. Un gros livre qu'on n'achète pas, c'est trop cher. Mais on avait fait la recension. Alors, on l'avait. Philosophie de l'art, Lydia. Alors, je vous donne une recherche. C'est un plan de recherche. Ayez ça sous les yeux, de temps en temps, revenez dessus, et c'est bon. Dans la philosophie de l'art, Lydia. Alors, la confusion de Lydia et de la substance, Platon. Et Séquoches, tous ceux qui sont platoniciens. Ils sont nombreux. La famille de Platon est très nombreuse. La philosophie éthique. J'avais dit la contemplation changée, mettez le choix amical. La contemplation, elle est d'ordre de sagesse. Tandis que le choix amical est antérieur. Et c'est l'identification de la substance et du choix amical. Épictète. Lévinas aussi. La philosophie politique. L'identification de la loi et de la substance. Vous auriez Maurras. Si on cherche à la fois la grandeur dans un siècle où philosophie et politique n'avaient pas grand-chose. Et je prends Maurras parce que ça revit actuellement. J'ai reçu un gros livre de Maurras et les disciples de Maurras. C'est intéressant à voir. Et c'est vraiment la confusion de la loi et de la substance. Philosophie de la nature. Nature forme, nature matière. Vous avez Hegel et Marx. Oui, philosophie forme, hegeliste de droite et de gauche. Et Marx, tous ceux qui sont plus ou moins influencés de Marx. Et hélas, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'ecclésiastiques sont influencés par Marx, pas par Hegel directement, beaucoup plus par Marx à cause de la sociologie. Les sociologies d'aujourd'hui sont presque toutes teintées de Marx. Je me souviens à Fribourg, on voulait faire une chaire de sociologie. Alors on avait quelqu'un qui venait faire une conférence sur la sociologie actuelle, et c'était très clair que c'était un teinté de marxisme. Alors, ou c'est teinté de marxisme ou d'hégélianisme. Vous voyez, c'est intéressant de voir l'hégélianisme de droite et de gauche. Philosophie du vivant, c'est-à-dire faire de l'âme une substance, Husserl. Théologie naturelle, Dieu, Malebranche, Spinoza. Philosophie critique, identifier le concept, tu vois, et la substance. Ne pas tenir compte de la quantité. Hegel aussi, et Marx. Il y a les deux. Logique, l'universel, identifier l'universel au concept, nous avons Occam. Et tous ceux qui sont dans la ligne d'Occam, c'est quoi tu es ? Ils sont nombreux. Oui. Corriger, n'hésitez pas à te corriger. Pour vous, mais c'est intéressant quand on étudie un philosophe de voir à quel point, jusqu'où il va. Vous voyez, je crois qu'une histoire de la philosophie devrait montrer le terme de ces philosophies. Jusqu'où cette philosophie va. Or, pour nous, l'entrée en métaphysique, c'est la saisie de substance-principe. Alors, si vraiment l'aristotélisme est la philosophie réaliste, quand je prends l'aristotélisme, c'est pas imiter et copier Aristote, c'est de comprendre ce qu'est l'expérience, ce que représente l'induction. On peut dire qu'Aristote repose là-dessus, au point de vue profond. L'expérience, un aristotélicien, c'est un homme d'expérience, attentif à l'expérience, ouvert à toutes les expériences, ne refusant aucune expérience. Et puis, le dépassement d'expérience, la saisie d'induction. Saisir le principe propre. Et la philosophie réaliste, au terme, s'achève dans une métaphysique et une théologie naturelle. Et on entre en métaphysique par la saisie du principe propre de l'être, de ce qui est. En tant qu'être, la substance. Donc, je dirais, dans la lumière de la substance, vous pouvez juger toutes les philosophies. Et je crois ça très, très important de faire ça. C'est un petit exercice critique. Oui. De voir loyalement d'abord. Jusqu'où cette philosophie atteint. Oui. Faire une histoire de la philosophie par les sommets. Quand vous êtes en avion, ça vous intéresse de voir à quelle hauteur l'avion prend son rythme. Vous ne prenez pas le rythme de l'avion quand il monte. Parce que ça bouge tout le temps. Vous prenez quand il est stabilisé. La saisie de la substance stabilise. Elle n'arrête pas. Je reviens tout le temps sur. Il faut tout le temps revenir sur la conception, la saisie de la substance comme principe. On y revient tout le temps. L'induction. Et quelque chose qui se refait tout le temps. Parce qu'autrement, on arrête le mouvement et on ne saisit plus la substance. On saisit quelque chose d'autre. On s'arrête au concept. On s'arrête à l'idée. Vous voyez ? c'est pas commode. Et c'est ça le problème de la philosophie. Ça aiguise notre intelligence. Et ça exige notre intelligence tout le temps. Faire le parallélisme entre devenir et être. L'expérience me met en contact du devenir. Tout ce qui est mu est objet d'expérience. Tout ce qui est mu est décrit par expérience. Et le dépassement de ce qui est mu se fait par l'époké, l'induction. J'ai dit au-delà du devenir de ce qui est mu, le principe profond de l'être. Tout être en devenir est. Donc tout être qui est en venir cache l'être. Et l'être est caché dans le devenir. L'être, il est. Votre substance, elle est cachée dans votre, par votre figure. Votre figure manifeste et votre figure cache merveilleusement la substance. Alors, ça, on doit y réfléchir constamment. Et chaque fois que vous touchez, vous lisez un nouvel auteur, posez-vous la question. Quel est la recherche de l'être pour lui. Parce que vous voyez, vous pourriez reprendre toutes ces confusions et les propriétés. La propriété de la substance, la propriété de l'idéal. La propriété de la substance et la propriété du choix. Et le point que j'ai essayé, Épictète, parce que Épictète, un stoïcien merveilleux. Point de départ, et ainsi de suite. Et cela vous permet de comprendre l'importance de la substance dans notre étude philosophique. La saisie de la substance dans l'étude philosophique, c'est le moment où ça se stabilise. On a quelque chose, on a saisi quelque chose. Et à partir de là, on peut organiser. Donc, je tourne la page. Dès que je saisis la substance, je saisis tout ce qui est relatif à la substance. Et je ne peux saisir métaphysiquement toutes les autres déterminations de l'être, toutes les autres modifications de l'être. L'être se dit pas la cause. La grande trouvaille d'Aristote. L'être se dit pas la cause. L'égétail pas la cause. Se dit de multiples façons. Le chien est. Le bœuf est. L'homme est. L'être à l'homme. L'être au cheval, ainsi de suite. L'être à Dieu, l'être à la table, à la chaise, l'être à la statue, ainsi de suite. L'être pour la cause. Donc, dès que je saisis la substance, je saisis un premier. Tous les autres relatifs au premier. Tous. Donc, je ne les saisis métaphysiquement qu'à travers la substance. La substance est vraiment ce qui me donne la connaissance métaphysique. Qu'est-ce qui est premier? Nous l'avons vu. Nous avons vu qu'il fallait tout de suite regarder la substance principe. La substance sujet, la substance attribut essentiel. C'est-à-dire, la substance principe, l'ousia principe, l'ousia sujet, c'est la substance première, l'ousia attribut essentiel, c'est la substance seconde. Bon. Nous avons donc ces trois qui s'appellent substance. Et nous devons bien les distinguer. Bon, j'espère que vous voyez bien. Ça, il faut le voir. Il faut le voir. Il faut soi-même comprendre que ce n'est pas la même chose de parler du sujet et de la substance principe. Ce n'est pas la même chose de parler de la substance seconde, l'homme, l'essence, ce qui définit l'intelligibilité propre de la chose, et puis l'être. Donc, je fais attention à ces trois. Et ces trois se tiennent. Ils forment un magnifique triangle. Substance première, substance seconde, substance principe. Bon, ça, nous l'avons vu, c'est très important à bien saisir, et à saisir tout de suite, au point de départ, dès qu'on a saisi la substance principe, de revenir en arrière, voir les liens entre cette substance principe et la substance sujet et la substance attribut. Maintenant, nous allons étudier les diverses modalités de l'être. La substance étant la modalité première. Et la première modalité, la première, selon l'expérience, c'est la quantité. Tout ce que j'expérimente est quantifié. C'est très intéressant de savoir ça. Tout ce que j'expérimente est quantifié. L'expérience qu'on peut répéter, l'expérience parfaite, objective. L'expérience objective, je touche, je mesure, je peux refaire cette même expérience. Quand je vous dis que l'eau est chaude, vous pouvez vous demander combien de degrés. Et une fois que vous savez combien de degrés, vous pouvez répéter et faire la même expérience. C'est-à-dire vous brûlez la main avec de l'eau très chaude. Je ne vous souhaite pas, ne faites pas cette expérience, mais vous pouvez la refaire. Je me suis brûlé la main mais en la plongeant dans de l'eau très chaude à partir de tant de degrés. Oui, toute expérience peut être reprise. Et c'est l'objectivité de l'expérience. Une expérience interne ne peut pas se répéter. Ah, j'ai eu une forte émotion. Refaites-la. Ah non, c'est impossible. Ça se refera peut-être. Quelque chose de semblable. D'analogue, mais je ne peux pas la refaire. Je ne peux pas vous mettre dans les circonstances exactes qui font exactement la même expérience. Tandis que l'expérience objective, matérielle, vous la refaire. Si vous prenez les mêmes conditions, vous pouvez faire la même sauce et avoir exactement le même goût. Vous savez tout ce qui a été donné. Mais si vous avez un artiste qui fait la cuisine, il dit ah, je suis seul à pouvoir faire ça. Parce qu'il n'a pas mesuré. Il n'a pas mesuré, non pas du tout. Parce qu'il a été étourdi, parce qu'il a su que la mesure ne suffit pas. Il faut goûter. Et goûter, c'est quelque chose qu'on attrape. Expérience interne, goûter. Gustate et videte. Videte, objectif. Gustate, subjectif. C'est vrai, ça. Donc, l'expérience objective se fait toujours à partir d'une réalité quantifiée. Vous n'avez rien touché, rien atteint, rien expérimenté de quelque chose qui est pur esprit. C'est très curieux. Ça fait comprendre ce que c'est que le positivisme. Le positivisme est toujours tout ramené à l'expérience extérieure. Mais il y a autre chose que ce que vous pouvez mesurer. La réalité profonde. Est-ce que vous mesurez votre manière d'aimer? Non. Vous ne pouvez pas. D'où la tentation. Est-ce que c'est réel ou c'est purement subjectif? Quand c'est purement subjectif, que je ne peux pas le répéter. Point d'interrogation. Lorsque je le répète, ah oui, objectif. C'est très intéressant de voir ça. Et tout de suite, je le vois. La substance, je ne l'ai jamais touchée. Personne. Je l'ai saisie. Par mon intelligence. Et mon âme, je l'ai goûtée. Elle a un goût spécial. Chaque âme. Ne dites pas, oh, cette âme, ça pèse tant. Non, jamais. Vous n'avez jamais pesé votre âme. Vous ne pourrez jamais la peser. Vous la voyez par ses effets. Vous la voyez pas directement. Parce que l'âme humaine est spirituelle. Alors échappe. La quantité est la condition sine qua non de tout ce qui est expérimenté. C'est quelque chose extrêmement intéressant ça, à voir que toutes vos expériences sont commandées par la quantité. Aucune expérience en dehors de la quantité. Donc, c'est la première chose qu'on va voir. La quantité ne pénètre dans l'être que dans sa relation à la substance. En elle-même, elle reste quelque chose qui est un mode spécial de l'être. Un mode spécial de la cause matérielle, de la nature matérielle. C'est relatif à la cause matérielle. Toujours. Il n'y a jamais de quantité sans qualité. Il n'y a jamais de quantité sans matière. La quantité n'existe qu'avec la matière. Elle est toujours dépendante de la matière et par là dépendante de la substance. Puisque la matière n'existe que par la forme. Donc, condition sine qua non de toute expérience. Et une philosophie qui ne dépasse pas l'expérience, ne dépasse pas le domaine quantifié. C'est le domaine de la réalisation physique. Toute réalisation physique implique la quantité et tombe sous le point de vue de l'expérience. Vous ne pouvez expérimenter que le monde physique. vous ne pouvez expérimenter que le monde quantifié. Expérimenter au sens fort de l'expérience objective. Expérimenter intérieurement, c'est autre chose. C'est la limite de l'expérience physique. C'est la limite de l'expérience objective. C'est la quantité. C'est intéressant de bien saisir cela. Ça vous montre l'importance de la substance. Parce que par la substance, la quantité est relativisée. Si elle est relativisée, elle n'est pas première. Il y a quelque chose qui est avant elle, la substance. Première constatation extrêmement importante. Deuxièmement, cette quantité, puis-je savoir ce qu'elle est ? Qu'est-ce que c'est que la quantité ? Si la quantité modifie ce qui est, elle est un mode de l'être, je peux chercher ce qu'elle est en soi, dans la lumière de la substance. Qu'est-ce que la quantité ajoute à la substance ? À la substance, à la nature matérielle. Et je cherche alors la quiddité de la substance, de la quantité. Qu'est-ce qu'elle est ? Elle est un certain être, la quantité. Je la trouve tout le temps. Je la trouve en moi, je la trouve dans mon voisin, grossièrement, je la trouve chez mon voisin. J'ai un voisin qui pèse 110 kilos. Il pèse 110 kilos. Je peux donc le mesurer quant à son poids. Grâce à la quantité, le poids, la grosseur, la taille, on devrait tous être les mêmes dans les petits coffres à lapins qui sont bien déterminés. Dépassez pas, ni à droite, ni à gauche. Je peux rien. Il me faut de place. Pas à cause du chien, mais à moi, de place. C'est la quantité. Donc, je suis sensible au poids, je suis sensible à l'espace. C'est le domaine de la quantité. Qu'est-ce que c'est que la quantité ? J'oppose constamment quantité et qualité. Et je sais très bien que la qualité sensible n'existe qu'avec la quantité. Oui, c'est vrai. Il faut un certain minimum de quantité pour que la qualité sensible demeure. Il y a une relation mutuelle entre les deux. Et c'est bien d'opposer la qualité à la quantité pour mieux comprendre ce que c'est que la quantité. Je dirais, telle personne a un sens très aigu de la quantité et pas du tout de la qualité. Il y a des situations de la quantité et des situations de la qualité. Tiens, oui. Toutes les deux dépendent de la substance. Y a-t-il une civilisation de la substance ? Non. Non. Parce que la substance, c'est l'être. Et une civilisation, c'est toujours ce que l'homme possède. Or, la substance, il ne la possède pas. D'un côté, il la possède. Je peux posséder la quantité. Je possède tant de kilos de farine. Je possède des kilos de farine. Je suis acheté, je sais ce que c'est. La qualité, on me l'a dit, mais oui, je peux pas la... C'est très difficile à vérifier. Confiance. Il m'a dit que c'était de première qualité. Je sais pas. Je me laisse rouler la plupart du temps. Première qualité. C'est sûrement pas première qualité. Mais je suis bien obligé de croire à ça. Et quand il y a concurrence, j'essaie de comparer. Et je compare. Tiens, la qualité va impliquer la comparaison. Pas la quantité. La quantité s'impose. C'est très curieux, ça. La quantité est quelque chose qui se donne comme c'est. C'est pour ça que c'est si lourd. Elle se donne comme telle. Les discussions, quand on pèse les bagages de voyage, vous avez le droit à tant de kilos, juste, un peu de trop, vous retirez quelque chose. Vous êtes obligé. La qualité, peu importe. On vit un monde de la quantité, terriblement. Au fond, on ne fait attention qu'à la quantité. Et c'est assez normal, puisque il n'y a que la quantité que je possède vraiment. Je peux la mesurer. Il y en a mesurant de la quantité, je la possède. Il y a tant de mètres d'étoffe. Tant que je n'ai pas mesuré, je possède. Il y a tant de kilos de farine. J'ai mesuré ce poids, je le possède. En mesurant, on possède. La mensuration est la connaissance de la quantité. La connaissance de la quantité se fait par la mensuration. Tandis que la qualité ne se mesure pas. Vous avez tant de kilos d'intelligence. Commencer à rire, ça ne se mesure pas, l'intelligence. Tandis que dit, ah, vous pesez tant de kilos, carte de visite, le poids, la grandeur, mais la qualité de l'intelligence. On met la qualité des yeux, oui, on met dans la couleur, mais il n'y a pas grand-chose. Tricot. Tout ce qui est quantitatif se mesure. Et ça se mesure grâce à la quantité. Donc, à partir de là, je peux dire que la quantité introduit dans notre monde, dans le monde de l'être, le divisible. La quantité, c'est la divisibilité de l'être. Par là, l'être est divisible. Autrement, il ne serait pas divisible. La quantité le rend divisible. Et par là, mesurable. Parce que chaque fois que vous mesurez, vous divisez. Forcément. Et vous avez une connaissance générique, typique, le maître. Le poids. Il y avait deux systèmes de longueur dans des pays différents. On saisit le mètre ou le pied. Et ainsi de suite. Et c'est en référence à une mesure idéale. Le Corbusier a essayé de mesurer la qualité. Corbusier est un architecte intéressant, mais il fait des confusions. Il n'a pas compris avec exactitude ce qu'est la quantité, ce qu'est la qualité. La quantité introduit le divisible dans l'être. La substance, elle n'est pas divisible. Elle est divisible chez vous par votre corps. Ah, votre corps apporte la quantité, la cause matérielle, la première chose qu'il apporte. Et par lui, grâce à lui, tout est divisible. S'il n'y avait pas le corps, cause matérielle, il n'y aurait pas cette divisibilité. Le principe est indivisible. Il est au-dessus. Donc, il n'y a pas de principe dans la matière. Ah, mais dans la matière, il n'y a pas de principe, mais il y a des fondements. Tiens. Et très facilement, on confond le fondement et le principe. Tiens. C'est la confusion du principe et de la quantité. Confondre la quantité et le principe, c'est très grave. C'est tout matérialisé. C'est ramener tout au mesurable, au divisible. Et ceci, ça a un nom. C'est le point de vue scientifique poussé à l'extrême. Faire de la science une sagesse, un absolu. Alors, à ce moment-là, vous confondez le principe et la quantité. Vous confondez le fondement et le principe. Le principe n'est saisi que comme quelque chose d'indivisible en soi. Le fondement, c'est le principe lié à la quantité. Le fondement, vous pouvez dire que cette maison a été bâtie sur un fondement très solide. Vous pouvez critiquer le fondement. Ce fondement n'a pas été assez solide et il a été fissuré. Alors il y a une partie qui ne tient plus. Dire ça d'un principe, ça n'a pas de sens. Dire ça d'un fondement, ça a un sens. Parce que la quantité intervient. Et très souvent, on confond fondement et principe. C'est très curieux, ça. Et dès qu'on fait cette confusion, vous pouvez être sûr qu'on matérialise tout. Parce qu'on confond la matière, principe, et la matière quantifiée, qui est le fondement. Quelque chose de mesurable. Je peux faire l'épreuve de la force de soutien d'un fondement. Ce fondement est capable de supporter ce poids. Vous ne pouvez pas dire ça d'un principe. Je vous dis ça d'un fondement. Vous le mesurez. Vous le mettez à l'épreuve. Et ce qu'on fait pour décanter cette chose, pour mesurer la solidité d'un fondement. La quantité est donc l'être mesurable. L'être divisible. Parce que le divisible est mesurable. Pour être mesurable, il faut être divisible. L'être en lui-même n'est pas divisible. L'être en soi n'est pas divisible. Mais il est divisible par la quantité. Donc le rapport substance-quantité est extrêmement intéressant. extrêmement intéressant parce que, justement, il me permet de comprendre ce qu'il y a de divisible dans l'être. Avec le divisible s'ajoute l'extension. Et c'est pas premier. L'extension, c'est une certaine quantité. Vous voyez, ordinairement, on prend la quantité du nombre, la quantité du continu. Continu et discontinu. Tiens, le continu et le discontinu. La géométrie et l'arithmétique. L'arithmétique, discontinu. Géométrie, le continu. C'est la quantité, tous les deux. Alors, est-ce que continu et discontinu sont des propriétés de la quantité? Il dit divisible. Le divisible a deux aspects. Le divisible du nombre, le divisible de l'étendue. Vous avez là deux espèces de divisibles très particuliers et qui sont intéressantes l'un et l'autre parce que la quantité n'est jamais simple. Ah. La quantité permet la complexité par le divisible, puisqu'elle permet les parties, elle permet le tout. Le tout et les parties s'ajoutent. Et c'est le divisible qui permet ça. Alors, c'est normal que le divisible a deux propriétés, un divisible discontinu et un divisible continu. Vous avez donc deux espèces de quantités. Mais au point de vue métaphysique, ce qui est intéressant, c'est que la quantité apporte le divisible. Vous avez deux connaissances de la quantité. Une connaissance métaphysique et une connaissance descriptive. La connaissance métaphysique, c'est de connaître la quantité relativement à la substance. La connaissance descriptive, c'est de connaître la quantité pour elle-même.
Cours de philosophie première de Père Marie-Dominique Philippe, le 22 février l'an 2000 à Saint-Jodard.
Quelques questions sur la quantité. Dans votre cours, dans votre dernier cours, comme ça on rattache, vous avez énoncé le problème de la quantité sous la lumière de la substance première. Et vous avez dit, tout ce que j'expérimente et quantifié, et c'est une expérience objective. Ici, je ne comprends pas pourquoi cette expérience est objective, car il me semble que c'est l'intelligence qui quantifie la réalité. Et donc, ce serait plus une expérience subjective. Non, sûrement pas. La quantité se mesure. Vous allez pas me dire que c'est subjectif de prendre un mètre et dire cette table a tant de taille. C'est très objectif. Objectif ne peut pas dire parfait, veut dire quelque chose qui détermine l'intelligence par soi-même. Alors c'est objectif la quantité. C'est objectif dans le sens extérieur à moi. Mon intelligence n'est pas quantifiée. Mon intelligence peut saisir la quantité déterminée. J'actue la quantité, vous voyez, en mesurant. Je ne dis rien parce que je ne veux pas me tromper. Mais si j'avais un mètre dans ma poche, je prendrais, je dirais voilà, exact. Puis je ferais attention, et attention, puis je dirais voilà. Et puis vous seriez là à dire, ah non, c'est subjectif. Mais je dirais, mais non, regardez, il n'y a rien de plus objectif, la mesure. Et vous seriez bien obligé de dire, oui, c'est vrai, c'est pas du tout, vous êtes en colère, moi je suis joyeux, et c'est la même mesure, c'est curieux. Alors que subjectivement, vous voyez tout dans la couleur rouge, la colère, et moi je vois tout dans la couleur douce, très douce, l'horreur, le point de vue du matin où tout est doux et en plein midi c'est rude, ça ne change pas, la quantité est la même, les poissons sont les mêmes. Vous savez la fameuse histoire qu'on raconte, ça vous montre ce que c'est que l'objectivité. Pendant la guerre, on avait pris tous les poids, toutes les mesures, et le livre de Sartre est apparu au moment de la libération. Quelqu'un va chez le boulanger acheter son pain, il voit ça, l'être et le néant dans un coin. Il dit rien, il est curieux. Le lendemain, dans un autre coin de Paris, l'être et le néant. Encore chez le boulanger. Tiens, c'est curieux. Puis la troisième fois, c'est toujours troisième fois, encore l'être et le néant. Alors, il dit au boulanger, mais quand même, vous ne le disiez pas, l'être et le néant. On dit, oh non. Alors pourquoi vous l'avez là? Mais c'est 500 grammes. Et il n'y a plus de poids, on nous a tout raflé. Parce que c'était du bronze. Alors, 50 grammes. Alors, c'est très commode. On pesait le pain avec l'être et le néant. Alors, je ne sais pas si c'est une blague ou si c'est une réalité. Je crois qu'il y a les deux. Parce que c'est vrai qu'il y a fait 100 grammes. C'est lourd. C'est objectif, ça. La longueur, le poids, ça ne change pas. Ça, c'est la quantité. La quantité rend les choses mesurables. S'il n'y avait pas de quantité, il ne serait pas mesurable. Donc, elle objective, selon une objectivité assez matérielle, je suis d'accord, Mais l'objectif, c'est... Quand on dit que cela mesure 1m50, tout le monde sait ce que ça veut dire. Cela pèse 1 kilo, tout le monde sait ce que ça veut dire. Cela pèse 500, tout le monde sait ce que ça veut dire. Vous voyez, c'est objectif, c'est mesurable. Et c'est propre de la quantité. Du reste, ceux qui n'acceptent que la science comme objectif, c'est parce qu'elle est mesurable. Les données de la science sont mesurables. C'est pour ça que c'est objectif. Et quand on n'accepte que cela comme objectivité, on a une univocité terrible. Seule la quantité est objective. Seul le monde quantifié est objectif. C'est l'erreur du marxisme. C'est l'erreur des scientifiques. C'est l'erreur... C'est vraiment objectif, mais ce n'est pas les seuls objectifs. Il y a une objectivité quantitative, mesurable, et une objectivité non mesurable. Ce qu'on va voir avec la qualité. La qualité est objective, mais elle est non mesurable. Mesurez votre intelligence. Vous ne pouvez pas. Parce que vous pouvez être intelligent comme bricoleur, comme mécanicien. Vous pouvez être intelligent comme mathématicien. Vous pouvez être intelligent comme philosophe. Il y a toutes les modalités d'intelligence. Tandis qu'il n'y a pas de modalité dans la quantité. C'est mesurable. Oui. Il faut avoir des vieux mètres, oui, qui ne sont plus tout à fait exacts, mais alors ça c'est rien, c'est la mesure. La quantité donc, elle rend objectif. Et d'une objectivité mesurable. Vous voyez, c'est ça, c'est le propre de la quantité. C'est très curieux qu'un monde quantifié est un monde net, mesurable. On ne discute pas. Vous ne discuterez pas sur la longueur de seuil que vous voulez mesurer. Avant de l'avoir mesuré, vous pouvez discuter. Il y a, ah oui, oh, ça, à peu près 1 mètre, oui, à peu près 1,5 mètre. Oui. Puis l'autre vient, non, pas 1,5 mètre, non. C'est... Et puis vous mesurez, puis vous vous taisez. Plus personne ne dit rien. Parce que vous avez la mesure exacte. Donc, ici, je ne comprends pas pourquoi cette expérience est objective, car il me semble que c'est l'intelligence qui quantifie la réalité. Alors, la quantité provient de l'intelligence. L'intelligence, elle n'est pas quantifiée. Je peux atteindre l'universel. L'universel, il n'est pas quantifié. Il est au-dessus. J'abstrais pour avoir l'universel. Qui soit une réalité qui n'est plus quantifiée. Et j'ai la signification des mots. Ce n'est pas quantifié. L'intelligence quantifie la réalité. Donc, ce serait plus une expérience subjective. Donc, vous voyez, ce qu'on appelle objectif, dans l'ordre de la quantité, une objectivité mesurable, une objectivité univoque, on ne discute plus. Et les sciences modernes sont toujours à base de mesures. C'est la mesure qui intervient tout le temps. Exactement. Le poids, la quantité, le poids joue un rôle important. Que veut dire cause formelle ? Est-ce l'intelligibilité? Est-ce l'intelligibilité? Cause formelle, c'est la cause qui détermine. J'espère que ça vous explique plus. Toute détermination provient de la cause formelle. Ce que vous appelez déterminé. C'est pas terminé, c'est déterminé. Il y a une différence entre les deux. Mais terminé, dans l'ordre de la quantité, ça détermine la quantité. Ça actue la quantité. Et ça les détermine. Quand vous mesurez un rouleau d'étoffe et vous déterminez, avant d'être mesuré, il est indéterminé. Donc la cause formelle donne une intelligibilité quantitative par les déterminations. C'est l'intelligibilité, c'est le fondement de l'intelligibilité. Toute détermination est intelligible. Rechercher la cause propre de son être selon la forme. Point d'interrogation. Rechercher la cause propre de son être selon la forme, c'est rechercher le point de vue de la substance. Cause propre selon la forme, au niveau de l'être. Qu'est-ce que cela veut dire? Les mots. A beaucoup de sens. Bon, les mots peuvent avoir des sens différents, c'est sûr, selon les formes dans lesquelles ils se trouvent. Mais ça n'a pas. Ça a beaucoup de sens, ça a des sens. Chien, ça a plusieurs sens, c'est sûr. Et puis on transpose métaphoriquement. Tu es d'une humeur de chien ce matin. Vous pouvez dire ça à quelqu'un. Et il sait très bien ce que ça veut dire. Alors, pas besoin de beaucoup d'explications. Pourtant, j'ai jamais vu un chien qui avait mauvaise humeur. Oui, oui, c'est quand il mord. Quand il mord bien, quand il emporte un morceau de lard. Alors à ce moment-là, vous dites, oui, il a des dents de chien. Une humeur de chien, il arrache tout. Bon, alors, vous avez là deux sens différents. Chien, animal, et puis humeur de chien. Où il est pris métaphoriquement et symboliquement. Mais d'après le contexte, vous vérifiez le sens propre et le sens métaphorique. C'est la première chose que vous faites pour la parole de Dieu. Quand vous parlez du bras de Dieu, quand vous parlez de Dieu et lumière, est-ce que c'est métaphorique? Est-ce que c'est propre? Dieu est sage. Vous voyez, première chose que vous faites, un discernement entre les deux, c'est quand vous dites que c'est cause propre, vous déterminez la cause formelle, la détermination propre qui affecte l'individu. Alors c'est cause formelle. Quand vous dites métaphorique, ça peut devenir une cause exemplaire. Tout de suite, vous voyez les causalités. Alors, la cause formelle, c'est justement ce qui est principe, l'origine de la détermination. Alors, rechercher la cause propre de son être selon la forme. Point d'interrogation. C'est la première recherche. C'est celle que nous avons faite par la substance. C'est celle que nous faisons en recherchant notre âme, l'existence de l'âme. Votre première cause formelle, c'est votre âme. Donc, c'est la détermination qui fait que vous êtes homme et non pas chien. Et non pas purement animal, non raisonnable. Parce que votre cause formelle, votre âme, elle est spirituelle. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire la détermination d'une réalité me permet de préciser ce qu'est cette réalité. Quand vous apprenez à lire ou à parler, vous déterminez les choses. Vous déterminez l'homme écrivant, l'homme se chauffant, l'homme dormant, l'homme, il y a toujours des déterminations. C'est-à-dire que la cause matérielle, c'est justement le point de vue de l'indétermination. Et la cause matérielle, toujours, elle va prendre la forme, la détermination, pour la rendre singulière par la quantité. Nous avons vu l'individu. L'individu, le singulier, c'est par la quantité. La cause formelle ne rend pas particulier, tandis que la fin, la cause matérielle, par la quantité, quand on dit chosifie, elle rend singulière les choses. Vous êtes un être individuel par votre quantité. Oui, ah oui, le mot forme a beaucoup de sens. Le mot forme, oui, j'ai sûr, ça a beaucoup de sens. On précise cause formelle. Et ça a un sens. Cause formelle. Forme est pris comme un adjectif, ce qui détermine. La forme, c'est ce qui détermine. Alors, vous pouvez prendre forme dans un autre sens, mais c'est quand même toujours ce qui détermine radicalement. Dans ce que vous nous avez dit jusqu'à présent à propos de la quantité, j'ai du mal à voir ce qui relève proprement d'une connaissance métaphysique de la quantité dans la lumière de la substance. C'est justement le propre d'une connaissance métaphysique, c'est une connaissance relative à l'être. Qu'est-ce que la quantité apporte à l'être ? Quand je parle de quantité, je parle d'un être. Et de tel être, je parle de l'être mesurable, de l'être divisible. Quand je dis la quantité apporte la divisibilité, c'est justement ce que l'être ne dit pas, mais la quantité le dit. Vous n'avez qu'à réfléchir vous-même sur votre quantité. Et ça, c'est facile à comprendre quand même. Si vous n'arrivez pas à comprendre que vous êtes des êtres quantifiés, il faudra passer sur la balance. Sur la bascule, on verra que c'est la bascule, qu'il y en a un qui pèse 70 kilos, l'autre 80, l'autre ainsi de suite. Alors, il y a de la différence. Quelle différence y a-t-il quand on dit qu'il pèse 70 kilos, il pèse 80 kilos. Est-ce que c'est une différence qualitative ? Non. Et tout le monde dit ça. Oui, c'est une différence quantitative. Elle apporte le divisible. On peut mesurer. Tandis que la qualité, vous ne pouvez pas mesurer. Quand vous dites que quelqu'un est intelligent, et quand vous dites qu'un autre est intelligent, ça peut être une intelligence très différente. c'est pas une différence quantitative, c'est une différence qualitative. Donc, dans la lumière de la substance, tout ce qui est défini dans la lumière de la substance, c'est une manière de regarder la chose au point de vue métaphysique. Puisque la substance, principe premier, principe propre, selon la cause formelle. Alors, nous avons vu au début, nous l'avons vu, il faut le revoir tout le temps, la différence des différentes causes. C'est sûr, il faut voir tout le temps ça. Les interrogations. En quoi ceci est ? Alors, avoir ce qui relève proprement d'une connaissance métaphysique de la quantité dans la lumière de la substance et ce que cette connaissance apporte de plus par rapport à une connaissance descriptive, pouvez-vous le préciser ? Quelle est la connaissance descriptive de la quantité ? On ne pourra jamais, dans une connaissance descriptive, distinguer la quantité de la qualité. Toutes les qualités sont quantifiées. Toutes nos qualités sensibles sont quantifiées. Et elles sont vues en même temps. C'est très curieux, ça. Donc, la connaissance descriptive consiste à regarder la figura de quelqu'un, la figure de quelqu'un, la manière de marcher de quelqu'un, la manière d'être de quelqu'un, ses gestes. C'est quantifié et c'est qualitatif. Je ne fais pas de distinction. Quand je décris toujours par la figura. La figura, c'est la figure, c'est la physionomie, c'est, quand vous regardez un paysage, c'est la forme de ce que donne ce paysage. C'est ça que vous décrivez. La connaissance descriptive ne distingue pas la qualité de la quantité. Parce que il n'y a jamais de quantité à l'état pur dans notre monde physique. Il faut une abstraction pour distinguer la quantité de la qualité. Parce qu'en effet, je ne peux pas mesurer la qualité d'un être. Vous allez acheter quelque chose, vous pouvez demander à celui qui vous vend, donnez-moi la meilleure, la qualité la meilleure. Il vous dira toujours que c'est la qualité la meilleure. Et vous ne pouvez pas vérifier, c'est à l'usage que vous verrez. Tandis que la quantité, ah, vous la mesurez sous ses yeux. Vous voyez la différence. Le point de vue qualitatif ne se mesure pas, mais il s'éprouve à l'usage. Vous voyez si, je ne sais pas, un bouton tient bien qualitativement, c'est l'usage. Vous voyez si vos souliers, vos sandales sont bonnes à l'usage. On ne peut pas dire ça d'avance. Très curieux. Réfléchissez un peu. Ah, ça, vous pouvez le décrire. Vous pouvez très bien décrire. Il y a deux manières de voir. Il y a l'usage d'une réalité et puis mesurer une réalité. Je peux décrire différemment l'usage. Décrivez comment vous usez vos sandales. Comment elles s'usent par vous. Comment elles gémissent. Autrement que votre tunique. Différemment. Vous décrivez. Et dans cette description, la qualité et la quantité sont présentes. Donc, la phénoménologie qui regarde uniquement le point de vue descriptif ne distinguera pas la quantité pure. Tu restes très très cru de voir ça dans les sciences également. Qualité et quantité vont de pair. Parce que je ne peux pas séparer les deux. Vous n'avez jamais vu la quantité tout seul. Jamais. Qu'est-ce que vous voyez? Des êtres quantifiés, des réalités quantifiées. Il y a toujours la qualité. Toujours. Donc, descriptif, pour décrire ça, et vous décrivez les deux. Tandis qu'une connaissance analytique, philosophique, ce qui rend la réalité mesurable, c'est le divisible. Tous nous avons fait cette expérience-là, mais on n'y a pas réfléchi, de mesurer quelque chose. Vous mesurez la quantité d'eau qu'il y a dans un seau, si vous avez à côté de vous un litre, qui vous sert de mesure. Et vous dites, ce seau contient 30 litres. Parce que vous l'avez rempli d'eau, et puis vous avez rempli 30 fois une bouteille. Et vous mesurez. Et quand vous mesurez, vous n'avez pas vu la qualité de l'eau. Est-ce que cette eau est buvable ou est-ce qu'elle n'est pas buvable? Ah, c'est autre chose. Ouais, je vous ai dit uniquement 30 litres. C'est tout le temps. Nous faisons constamment la différence entre la qualité et la quantité. Constamment. Mais on ne s'en aperçoit pas. Alors, le philosophe réfléchit sur la quantité. Et c'est une réflexion très intéressante de voir ce qu'apporte la quantité à l'être par la cause matérielle. La cause matérielle n'est utilisable que par la quantité. Vous voyez, la quantité rend les choses adaptées. C'est par la quantité que vous êtes capable de saisir quelque chose. Un bâton saisi est à ma taille. Il est trop gros, je ne peux pas le saisir. C'est parce qu'il est trop gros. C'est la quantité. C'est pas parce que... Pour autre chose. C'est pas parce que c'est un bois de grande qualité que vous ne pouvez pas le saisir. Mais tout simplement, il est trop gros. Votre main ne peut pas le saisir. Tout le temps. Alors, il est bon d'y réfléchir. Et il est intéressant de voir ce que la quantité apporte à la substance. Alors ça, vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas l'expérience. Donc, c'est parce que vous n'êtes pas attentif. Si vous êtes attentif, vous verriez tout de suite la différence de la qualité et de la quantité. Dans toutes vos journées, vous faites des différences de ça. Mais vous ne faites pas attention. C'est peut-être même le lieu par excellence où on voit si on est attentif aux expériences. Je crois que le grand malheur, c'est que dans notre monde d'aujourd'hui, c'est comme ça, on ne fait plus grande attention à la qualité des choses, on est très sensibilisé à la quantité. La quantité, c'est impossible de ne pas la voir. La qualité, c'est différent. Il y a des êtres qui sont très peu qualitatifs et qui ne voient que la quantité. Alors il faut les doucher fortement pour qu'ils puissent s'apercevoir des douches différentes. La chaleur, le froid. La chaleur et le froid. Très peu de personnes qui ne font aucune différence. C'est très très rare. La chaleur et le froid, c'est sûrement des qualités très proches de la quantité. Alors c'est bien du reste. Quand les douches froides, glaciales, sont surabondantes, c'est très long à chauffer. Tandis qu'un petit peu d'eau froide dans un tout petit récipient, ça chauffe très vite. Alors, il y a une inversion. Plus la quantité est forte, moins la qualité s'affirme. Et nous allons vers une civilisation quantifiée. Nous allons vers ça, actuellement. Oui, on a basculé du sens de la quantité. Et on pourrait mettre une date. Et on ne peut pas rattraper. C'est très curieux, ça. Et ça, c'est un fait d'expérience. On ne réfléchit pas dessus. La qualité et la quantité. On ne voit que la quantité. Et c'est ça, quand on parle d'une civilisation qui se détruit, c'est une civilisation qui va vers la quantité, en massacrant la qualité. Alors au bout d'un certain temps, on ne sera plus que la quantité. Alors ce n'est plus une civilisation. Quand vous avez une masse, une quantité d'hommes, une quantité de femmes, une quantité d'enfants, une quantité, uniquement de nombre, la qualité disparaît. Et il n'y a plus que le nombre, vous voyez, le nombre qui joue. Et on est en face d'une civilisation qui se dégrade et qui ne voit plus, qui n'a plus d'accès qu'à la quantité et n'a plus d'accès à la qualité. Bon. La quantité se divise en quantité extensive et en quantité numérique. Il y a deux espèces de quantité. C'est toujours le divisible. Et c'est le divisible du côté extension et du côté du nombre. Là, il y a un problème très intéressant, c'est justement de voir ce qu'il y a de commun entre la quantité extensive et la quantité du nombre. Oui. La quantité extensive est plus fondamentale. Elle est fondamentale. Elle est toujours là. Mais elle est cachée par le nombre. Et le nombre se sépare plus facilement de l'aspect quantité que l'extension. Autrement dit, on peut arriver à nombrer d'une façon qui ne soit pas quantitative. Vous parlez du nombre des anges. Ah, en philosophie, je peux le faire, des substances séparées. Il n'y a pas d'extension, il n'y a pas de quantité. Vous voyez ? Alors, on dira un nombre transcendantal. Le nombre peut aller plus loin dans la formalisation que l'extension. Et le nombre, radicalement, implique la quantité d'extension. vous divisez, vous divisez, vous divisez. Et chaque fois que vous divisez, vous multipliez. Puisque une tarte, vous la divisez en deux. Il y a deux tartes. Elles sont plus petites, il y en a deux. Donc, c'est bien l'extension qui est la matière première, fondamentale, d'où je divise. Alors, c'est une chose très intéressante au point de vue philosophique de voir que dans la quantité, qu'est-ce qui actue, c'est la division. D'où un penchant très net, quand vous êtes uniquement dans la cause matérielle, c'est de diviser. La division du travail, c'est juste l'inverse de la finalité. Et la division du travail peut arriver à être tellement grande qu'elle fait que le travail n'est plus humain. La division des sciences qui se particularise toujours plus, qui fait qu'au bout d'un certain temps, on ne voit plus le tout. Et on ne voit plus que la science particulière. Mais au point de vue quantité, la division, elle actue. Elle est donc quelque chose de positif. Et c'est très important. Ça a énormément de répercussions au plan politique. Et la politique peut arriver à se diviser en partis. Et les partis peuvent se subdiviser en d'autres partis. Et quelquefois, ça devient de plus en plus des partis. Et le tout est de plus en plus loin. Il n'y a plus aucun lien avec le tout. Et l'intérêt, il y a l'intérêt puisqu'on le fait. Instinctivement, ça se fait, ça. On dit que la droite se divise tout le temps. Pourquoi ? Parce que la finalité n'est pas là. S'il y avait un sens de la finalité, il n'y aurait pas ce primat de la division. Ce primat de la division est vrai dans l'ordre quantitatif pur. Purement et simplement, dans l'ordre quantitatif, la division règne. C'est très intéressant, ça, à remarquer. Et ça fait comprendre ce que c'est que la quantité. La quantité est un être de liaison. Grâce à la quantité, il y a la communication. Ah, tiens. Et ça joue énormément, ça. Surtout aujourd'hui. On fait la philosophie des communications. Oh tiens, philosophie des communications. On fait même la théologie des communications. Dans la très sainte Trinité, j'espère. La philosophie et la théologie des communications. C'est terrible. Parce que ça quantifie toujours. Qu'est-ce qui fait l'unité ? Est-ce que c'est la quantité ? Ou est-ce que c'est la finalité ? Voilà l'option constante. Et ça fait comprendre l'importance de la quantité chez quantité d'êtres. Même dans des communautés très intelligentes, comme la communauté du noviciat, il y a sûrement la grande différence, c'est qu'il y a les êtres, ils sont pour la quantité, ou ils ne le disent pas. Je n'allais pas dire en entrant, mon père, je suis pour la quantité, moi. Donc, et le père maître, ou 6 mois, c'est la quantité qui domine chez lui. Et on ne s'en aperçoit pas. On est pris par le courant. Et la psychologie, pourquoi a-t-elle tant d'importance ? C'est parce qu'elle met en pleine lumière la quantité. La quantité, le pose, le comment. Ça commence toujours par la quantité. Autrement, c'est les principes. n'y a pas de quantité dans les principes. Même dans la matière, il n'y a pas de quantité. C'est très curieux. Et c'est très intéressant à voir les gens qui sont portés instinctivement vers la quantité. C'est le point de vue du suffrage universel. Vous n'avez plus de voix, donc vous avez raison. Non, vous n'avez plus de voix, c'est tout. Vous avez fait une très bonne propagande. C'est pour ça que vous n'avez plus de voix. Et l'autre, il a beaucoup moins de voix. Il est dans l'erreur. Non, il n'est pas dans l'erreur parce qu'il a moins de voix. C'est très curieux. Vous voyez, alors quand on dit que la métaphysique n'est pas pratique, c'est faux. C'est pas la psychologie qui est pratique. Elle est quantifiée. Il faut remonter à la source et voir les choses qui sont en réalité objectives. C'est pas l'intelligence qui quantifie. Les choses sont quantifiées parce que la cause matérielle est présente. La cause matérielle, c'est votre corps. C'est présent dans une communauté. Il est bien évident que la cause matérielle joue un rôle très important. Mais elle ne joue pas le rôle principal. C'est très important, mais ce n'est pas ce qu'il y a de premier. Ce qui fait l'unité, c'est la finalité. Et on verra ça en métaphysique avec la philosophie de l'acte. À côté de la philosophie de la substance, il y a la philosophie de l'acte. Et c'est la métaphysique. C'est le point de vue de la finalité qui l'emporte. Donc, la quantité doit être ou une quantité d'extension. La quantité d'extension, c'est le point de vue du terrain, en quelque sorte. C'est la chose qui se voit en premier, extension. L'extension, toujours dans la quantité, les dimensions. C'est la quantité d'extension. Et le nombre, c'est le fruit de la division. Alors, il y a un lien constant entre les deux. Il y a deux sciences, géométrie, arithmétique. On sait bien ça. Et la philosophie, elle prend au point de vue de l'être ce qu'il y a de commun à l'extension et au nombre, le divisible, pour voir comment la quantité se présente à nous, ou en extension, ou dans le nombre. Et il y a les mêmes phénomènes. Attention, je dis qu'il y a les mêmes phénomènes, pas tout à fait. La quantité d'extension demeure beaucoup plus quantité. Et beaucoup plus difficilement, elle se formalise. Tandis que la quantité numérique, par le nombre, grâce à la division, elle se formalise beaucoup plus vite. Il y a donc les mêmes phénomènes, mais d'une manière très différente. L'extension n'est pas le nombre. Et dans les réalités que nous touchons, que nous voyons, les uns sont sensibles au nombre, les autres sont sensibles à l'extension. Et ça, vous voyez ça beaucoup en art, l'art pictural. Parce que l'artiste formalise. Et lui aussi, là, ça joue beaucoup la quantité. Et vous avez des artistes qui sont très sensibles à l'extension, et des artistes qui sont très sensibles au nombre. Ce n'est pas du tout les mêmes. Il y a des sensibilités différentes. Et le nombre formalise. Une fois qu'on a vu la quantité par rapport à la cause matérielle, nous allons maintenant entrer dans la qualité. la qualité tout de suite se présente dans une très grande diversité. Très grande diversité. Il y a des qualités invisibles. Il y a des qualités invisibles comme par exemple la science. Qualité de la qualité. C'est une super qualité. Et il y a des super qualités, c'est normal, c'est même celle qu'on doit saluer en premier lieu. C'est être qualité d'une qualité. L'intelligence, c'est une qualité. Et il y a diverses intelligences. Vous pouvez, normalement, devenir plus intelligent. Si on faisait la mesure, hein, la mesure, vous voyez, de votre intelligence en entrant au noviciat, et puis en sortant du noviciat, on verrait la figure avant, la figure après. Il a maigri. Ça se voit tout de suite. Il a maigri. Il a changé. Et profondément, son intelligence s'est modifiée. Et son intelligence a creusé davantage. Elle s'est approfondie. Avant le noviciat, on ne pensait pas. Vraiment, on ne contemplait très peu. On écrivait beaucoup. On aime tous un certain sens artistique de décrire. À la fin du noviciat, on est devenu un homme beaucoup plus profond. Donc, il y a des qualités de qualité. C'est très curieux. On n'a pas une quantité d'une quantité. Non. C'est curieux de voir ça. Que la qualité appelle la qualité. Plus vous êtes un être qualitatif, plus vous voulez être qualitatif. Qualité de qualité. C'est très propre à la qualité, ça. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la qualité de la qualité? On appelle ça, chez Aristote, chez Thomas d'Aquin, et pour certains, c'est ce qu'il y a de propre dans Thomas d'Aquin. En grec, exis. En latin, habitus. En français, rien. Là-dessus, je m'arrête.